Nous sommes mercredi matin et je viens de boucler ma routine de préparation marathon. Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42, mon podcast sur le running et le lifestyle sportif. J'espère que vous allez bien, que vous courez bien, que vous entraînez bien, que la santé va bien. Je vous avais dit la semaine dernière, j'avais la gastro. Bon, bah cette semaine, hein, c'est un petit peu compliqué encore, hein, voilà. À 10 jours de la préparation marathon qui me conduira jusqu'à Albi le 26 avril, eh ben, je me demande comment je vais réellement courir un marathon parce que j'enchaîne un petit peu les semaines difficiles. Ma fille était malade, puis moi gastro, et cette semaine rhume. Hier j'étais naze, mais j'ai fait une bonne nuit et ça va mieux. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de ma routine de préparation au marathon et de son intérêt et pourquoi je la fais tous les matins, tout simplement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et oui, je disais, j'ai un petit peu de mal hein, pour le moment sur à me dire que je vais courir un marathon dans 3 mois environ. Hein, un peu, enfin, j'ai pas calculé le nombre de jours exactement. Mais j'ai fait un mois de janvier vraiment très light hein, sur le plan du kilométrage. J'ai même pas fait 100 km. Hein, je crois que j'ai fait 97 km. C'est ce que font certains en une semaine de préparation marathon. Moi, j'en ai fait sur un mois. Donc, ce qui fait très peu de séances. Hein, j'avais couru le 1er janvier. J'ai couru un petit peu après. J'ai repris l'entraînement avec le club. Et puis derrière, on a enchaîné. Alors, un petit peu les maladies d'un côté, les maladies de l'autre. Bon, la grosse maladie après. Vraiment, puis là ça fait 2-3 jours que j'ai le nez qui coule et je me suis surtout en fait attaché à retrouver la forme et j'ai remplacé des séances nocturnes avec le club hein, qui sont les mercredis soir et vendredi soir à 18h30, il fait nuit, par des séances au soleil pour soigner la vitamine D dont les effets sur le corps et la santé sont très importants. Moi d'ailleurs hein, j'ai besoin vraiment de ça parce que j'avais eu des soucis certaines années avec la vitamine D, ça me manquait, j'avais des douleurs dans les jambes, j'ai des courbatures en permanence et ça venait de la vitamine D. Alors depuis hein, le médecin me donne des capsules. Enfin, vous savez, de la vitamine D en gélule, je sais pas comment on l'appelle ça, non, en truc liquide là, en ampoule, voilà, pardon. Donc, je prends ça une fois par trimestre, et puis je fais aussi attention à me mettre au soleil assez suffisamment, etc. Et notamment, comme il a fait beau certains jours, j'ai pu aller courir en short et en manche courte, hein, vraiment très appréciable, sans lunettes de soleil hein, pour aider vraiment à prendre le maximum. Et il faudrait vraiment une exposition plus longue hein, que 1 heure, il faudrait y être 2 heures, 2h30 par jour normalement au soleil, mais bon, bref, c'est déjà tout ça de prix. Et en tout cas, ça m'a fait du bien, même si j'en ai pu faire qu'une séance par semaine, ce qui explique un kilométrage qui soit très 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 faible. Et vraiment, hein, quand la préparation marathon va démarrer, elle va être bien plus importante ce kilométrage. L'an dernier, j'étais monté autour de 70 km par une semaine à peu près, et je pense que là, je vais monter plus haut que ça. En fait, on verra bien combien je vais monter, mais je pense qu'il y a des semaines qui seront plus chaudes que ça. En tout cas, il faut s'y préparer, et c'est pour ça que je fais une pré-préparation marathon. Alors, ça semble étrange dit comme ça. D'ailleurs, je sais que certains ont été surpris dans les commentaires en me disant « Mais attends, tu fais une pré-préparation au marathon et bientôt tu vas faire une pré-pré-pré-préparation au marathon. » Allez savoir, mais je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années que déjà, je ne savais pas ce que c'était qu'une préparation au marathon. Déjà, à une époque, j'avais dit « Je ne courrais pas le marathon. » Ensuite, j'ai découvert le vouloir courir un marathon, mon défi de mes 42 ans. Et donc, ensuite, j'ai découvert les joies de la préparation au marathon. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas mal d'avoir un petit sas de préparation avant parce que dire je fais rien pendant des semaines et puis tout d'un coup je me lance la préparation marathon avec 3 ou 4 séances par semaine, c'est un peu rude hein, comme truc, c'est vraiment trop rude, donc j'ai inclus un sas hein, de pré-préparation vraiment qui est de dire tout simplement je dois préparer mon corps, hein, vraiment préparer mon corps à attaquer la préparation, mais c'est aussi préparer mon mental à enchaîner des semaines plus chargées et contraintes, et comme là en ce moment en plus j'ai pas trop couru, il va falloir que j'augmente mon volume de course pour arriver déjà à retrouver un volume de course qui soit d'aller courir au moins 2 à 3 fois dans la semaine tranquillement avant de pouvoir ensuite attaquer les séances qui seront plus lourdes. Mais vraiment, hein, c'est l'idée, hein, c'est vraiment de se préparer, moi de me remettre vraiment en forme, de travailler certains aspects qui sont pour moi importants. Et si vous êtes dans une préparation marathon, vous constater hein, qu'il y a une rigueur, un stress qui est important dedans. On peut pas être en préparation marathon en permanence, mais de se passer d'un état où on fait finalement un petit peu à la va-vite comme ça à une préparation stressante où on contrôle tout, c'est un petit peu rude aussi. Donc l'objectif de cette pré-prépa, c'est finalement de prendre les bonnes habitudes et les routines pour être prêt, pour qu'en fait elles soient déjà intégrées dans le quotidien et qu'une fois qu'elles sont intégrées dans le quotidien, il n'y ait plus à le penser, elles se feront aussi naturellement pendant la préparation elle-même, même si je sais que l'an dernier, après, les maintenir après la préparation, après le marathon lui-même plutôt, ça avait été un petit peu compliqué. Je vais donc vous donner les éléments de ma routine matinale qui sont liés au running. Alors, cela s'incorpore dans une routine qui est plus large avec de la création de contenu, ce podcast par exemple, mais aussi de l'écriture, l'écriture de mes mails, etc. Donc, ma routine du matin est plus longue que ça. Moi, je me lève tous les matins à 5h. Ce matin, j'étais réveillé à 4h55, sans réveil, sans rien, donc je le dis. Bon, hier, j'étais couché à 22h et j'aurais pu me coucher à 21h30 tellement j'étais naze, mais ça, enfin même 20h. J'aurais pu dormir à 20h, mais il fallait d'abord coucher ma fille. Donc là, ça marchait pas, parce que à 2 ans, elle peut pas encore se coucher toute seule, et de toute façon, j'adore la coucher, donc c'est vraiment ce moment-là, mais vraiment, hier, j'étais complètement cuit, j'ai fait des inhalations, j'ai pris des huiles essentielles, etc., pour me rebooster, et c'est vrai que ce matin, ça va quand même mieux, je suis content, je pense que je pourrais aller courir ce soir. Cette routine sportive en elle-même dure entre 15 et 20 minutes, hein, voilà. À l'époque, j'avais une routine qui faisait 7 minutes, maintenant, je suis à entre 15 et 20 minutes, j'ai allongé, bah oui, j'ai le temps de l'allonger, parce qu'en fait, je prends un peu plus le temps sur certains exercices, de pousser un petit peu plus, hein, je prends le temps, mais quand j'ai pas le temps, hein, quand par exemple il y a des matins je dois partir plus tôt, je la fais, je suis capable de la faire en 7 à 10 minutes, voire même une fois je l'ai réussi à la faire en 5 minutes, mais ça veut dire que là, tout ce qui est souplesse, je vais parler de souplesse d'étirement, bon vraiment, c'est vraiment histoire de dire, et il vaudrait mieux la faire, et d'ailleurs je le fais, hein, je le fais dans ce cas-là plutôt en fin de journée, à la fin de journée, je prends un petit quart d'heure dans la maison pour faire ça. L'intérêt de la routine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps progresse quand on s'occupe de lui chaque jour, et non une fois de manière intensive de temps en temps. En fait, la régularité prime, vous le savez, c'est vrai pour l'entraînement physique, je vous l'ai dit aussi, c'est vrai pour l'entraînement invisible. Mieux vaut dormir suffisamment toutes les nuits de la semaine et moins bien une nuit de week-end parce qu'on a des amis, on fait la fête, que l'inverse. C'est idem pour les repas. Il vaut mieux manger bien tous les jours et à tous les repas et puis s'offrir un petit cheat meal de temps en temps. Donc l'idée, c'est adopter une petite routine qui contribue à votre bien-être, mais le faire quotidiennement. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle fasse 1 heure ou 2 heures votre routine. Cet exercice-là, il ne doit pas être trop long. Si vous arrivez à placer 10 minutes, un quart d'heure dans votre journée pour le faire le matin, il y a des exercices d'ailleurs qui doivent se faire le matin, vous verrez que vous allez en retirer des bénéfices assez rapidement, mais à condition, faites-la pas juste une fois. Il faut la faire plusieurs fois, faut essayer, faut voir ce que ça donne. Normalement, on dit qu'une routine, faut la faire pendant 21 jours pour l'incorporer un petit peu, la faire rentrer dans sa tête. Mais en fait, des fois, il faut plus longtemps que ça. Ça dépend aussi si elle vous amène un certain bonheur. Elle peut vous amener une certaine difficulté. Attention, dans certains cas, il y a des choses dans ma routine qui peuvent vous amener une certaine difficulté. Ça, à vous de voir aussi si vous vous sentez pas énergisé. J'ai fait il y a pas très longtemps un épisode de podcast privé pour ceux qui écoutent votre coach web, mon podcast sur la création de contenu, et pour ceux qui le soutiennent par Patreon, qui donnent de l'argent. D'ailleurs, c'est un mode de financement auquel je réfléchis aussi pour Kilomètre 42, mais ça, je vous en reparlerai dans un autre épisode. J'avais expliqué que ma routine du matin m'énergise, en fait. Elle me donne de l'énergie. Et donc, pour moi, c'est important parce que le matin, comme ça, je me réveille avec la volonté de faire des choses, et là, je trouve de l'énergie, ça me met de l'énergie, une vraie grosse patate, hein, vraiment, pour affronter la journée. Et en fait, j'ai le sentiment, et je sais, moi, que quand le début de journée est réussi, le reste de la journée, en général, il va beaucoup mieux. Donc, vraiment, le but du jeu, pour moi, c'est de soigner mon début de journée. Alors, il y a des routines sportives et des routines créatives. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine sportive. Ce que je recherche dans cette routine, c'est déverrouiller le corps, voilà, j'ai cherché le mot, c'est déverrouiller les muscles, les articulations, travailler la souplesse, renforcer par du gainage et mieux respirer. C'est les 4 grandes choses que je cherche dessus. Je vais revenir un petit peu sur chaque élément parce que je pense que c'est important de les préciser un petit peu. D'abord, déverrouiller ces muscles et articulations, prendre en compte que le sommeil apporte une cicatrisation, une reconstruction du corps, hein, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, c'est une reconstruction hormonale et musculaire, mais ces transformations physiologiques raccourcissent temporairement les muscles. En fait, vous ressentez au réveil un déficit d'élasticité musculaire, des raideurs, et il faut récupérer cette élasticité, ces raideurs, il faut déverrouiller les articulations pour ne pas agresser les cartilages, les tendons, les ligaments qui sont froids. Donc l'idée, hein, vraiment là, on est sur comment finalement je réveille le corps en l'étirant, en déverrouillant tout ça. Moi, il y a même des fois, je trouve que ça grince un petit peu le matin. Il y a un exercice, notamment, je vous donnerai plus tard, je vous dis, ça grince un petit peu. Ensuite, c'est travailler la souplesse. La souplesse est très importante, notamment pour éviter les blessures. Gagner en souplesse abaisse vraiment le risque de blessure, mais aussi ça augmente l'efficacité de notre corps. Ça limite aussi, vous savez, ma certaine raideur de fin de journée. Ça facilite certains mouvements dans la vie de tous les jours, mais aussi certains mouvements de course nécessitent de la souplesse. Tout simplement, la foulée, avoir une foulée ample, pouvoir faire des grands pas, etc. C'est important d'avoir une certaine souplesse. Hein. J'ai le souvenir notamment de certaines personnes qui courent en étant très 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 raides et qui avaient une foulée qui était assez raccourcie. Alors, ils allaient quand même très très vite, mais la question qui se posait, c'était de savoir si en allongeant un petit peu leur foulée, en se dérédifiant, je sais pas si on peut le dire, en s'assouplissant, voilà plutôt, ils arriveraient finalement à avoir une foulée plus ample et aller plus vite. Moi, il y a des gens qui ont constaté, quand ils regardent ma foulée, quand ils me regardent courir, qui me disent, voilà, quand ta foulée elle est plus grande, tu vas quand même beaucoup plus vite, on voit que t'es mieux, etc. Et c'est vrai, hein, c'est quelque chose que je travaille, ça en même temps que la cadence. Alors c'est pas facile de travailler les deux, parce que des fois j'ai l'impression que l'un se fait au détriment de l'autre. Mais ça, c'est un autre débat avec lequel il faudrait que je parle avec quelqu'un qui est spécialiste de la cadence. Et c'est un sujet d'ailleurs que j'aimerais bien aborder un jour. Le troisième point, donc, c'est renforcer, je vous l'avais dit. En fait, la course fait fonctionner tout le corps. On doit renforcer le bas du corps, mais aussi le haut, et notamment les abdos qui participent au maintien. On doit aussi renforcer le dos, hein, tout simplement. En fait, si on reprend un petit peu les choses, les mollets sont responsables du début de la phase d'amortissement, quand votre pied se pose au sol, hein, donc il n'y a pas que le pied qui travaille, il y a les mollets, bien sûr les jambes, etc. Mais les mollets jouent un grand rôle, les tendons, etc. vont jouer un grand rôle, hein, tendons d'Achille, etc. Et muscler le dos et le ventre va aussi finalement alléger un petit peu ce travail, va aussi alléger le corps. C'est aussi prévenir les problèmes de dos. Cela aide aussi à un bon placement en course, notamment cette fameuse foulée ample, mais ça va aussi lutter contre certains problèmes. Alors il y a un problème qu'on appelle la lordose, c'est-à-dire en fait c'est une cambrure au niveau de la région lombaire qui peut s'avérer pénalisante en course et modifier notre manière de courir et même nous ralentir. Vraiment, ça peut être pénalisant. Et puis rappelons-nous qu'en course, surtout exigeante et longue, vous êtes peut-être rendu compte que vous avez une tendance, quand vous êtes fatigué, en fait, à vous... votre tenue musculaire baisse et donc vous avez tendance à vous plier vers l'avant. On a une tendance à se plier vers l'avant. Ce que m'a dit un ostéo, m'a dit c'est assez logique. Hein. Je vous avais parlé que j'avais une petite tendance moi aussi à me pencher vers l'avant sur certaines choses, ce qui était gênant en partie sur la respiration notamment, et qui on peut lutter contre ça finalement en musclant bien le haut du corps. Donc vraiment ça permet d'alléger la course, courir mieux, retarder ce moment de dégradation en fin de course où on a une tendance à se pencher vers l'avant. On peut y penser, hein, c'est un réflexe, mais au bout d'un moment quand on est fatigué, et ben le corps on a du mal à soutenir le haut du corps, et donc le fait de muscler à la fois les abdos et le dos, abdos et dos, même moi je muscle aussi un petit peu les épaules, et bien finalement c'est d'arriver à alléger le corps, et on devrait rajouter là-dedans le travail de bras, mais qui peut pas se faire si facilement que ça dans la maison le matin, ça se fait plutôt en courant par des exercices, mais le travail des bras aussi, hein, le mouvement des bras, des balanciers, participe aussi à l'allègement du corps, tout simplement, et au fait que finalement notre corps se dégrade moins vite. Et oui, ça fait beaucoup de choses à penser finalement, la course, c'est pas seulement du physique, hein, c'est adapter vraiment notre fonctionnement physique, et y penser un petit peu, c'est vraiment intéressant. Et puis, j'ajoute à tout ça un travail sur la respiration, qui est le quatrième grand point, c'est de travailler une respiration ample et ventrale, bien faire travailler mon diaphragme. Vous savez qu'en fait, la respiration, bien gonflée, respirer par le ventre, hein, c'est profiter de sa puissance pulmonaire au maximum, et c'est le diaphragme, en fait, qui fait le travail, puisque le diaphragme, en fait, il permet aux poumons de se gonfler plus, mais il faut le faire travailler. C'est une faiblesse chez moi qui peut être gênante sur la course, mais aussi sur la digestion. En fait, alors ça vient de plein de choses, mon comportement, mon tempérament, mais là il faudrait qu'on aborde des notions de naturopathie, donc ça sera un peu plus compliqué que ça, mais disons qu'en fait mon comportement physique, physiologique, psychologique fait que mon diaphragme travaille pas si bien que ça et que ça peut me provoquer des problèmes, d'une part avec une respiration qui n'est pas assez ample, ce que m'avait dit d'ailleurs mon ostéo cet été en faisant travailler avec certains exercices, il m'avait demandé de travailler certains trucs justement pour faire attention à mes respirations, un naturopathe m'a dit aussi de faire attention, d'être conscient de ma respiration, de respirer en conscience. Et en fait, le travail du diaphragme, c'est à la fois pour mieux respirer, pour profiter au mieux, hein, de la capacité pulmonaire. Donc moi, par exemple, il y a certains exercices qui me permettent vraiment d'étirer les épaules, vous voyez, d'ouvrir un petit peu le haut du corps, mais ça, j'en avais déjà parlé. Mais c'est aussi de participer finalement. Le diaphragme, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand vous respirez, eh ben, il y a un moment, il y a ce travail, le diaphragme aussi, il va aller appuyer sur tout ce qui est intestin, digestion, etc. Et en fait, et je sais, parce que certains m'ont envoyé des messages sur les problèmes de digestion, d'intestin, des fois, qui se vident pas assez. Enfin, il y a tout un tas de trucs, vous voyez, dans ce genre-là. Et une question, c'était c'était notamment dire, et moi que je pose toujours, mais on va le dire très clairement, c'est comment éviter d'avoir besoin de s'arrêter dans le premier arbuste qui passe quand on court sur un chemin le matin. Ça m'est arrivé des fois, et je sais, et y a, bien sûr, ça fait partie des tabous, il y a plein de gens qui le disent pas, mais j'ai le souvenir de quelqu'un à l'entraînement qui racontait comment, dans quel état de dégradation, j'ai envie de dire, son ventre était à la fin d'une séance dure pour lui, hein, voilà. Donc ça arrive, tout le monde a eu, il faut c'est comme ça, hein, voilà, c'est la nature. La course à pied travaille beaucoup, hein, ça affaiblit les intestins parce que ça fait des micro-fissures, etc. Mais en plus, quand comme moi, vous avez un peu l'intestin paresseux, il faut l'aider. Alors moi, je l'aide par des en prenant des graines de psyllium, des choses comme ça, mais aussi par travailler cette respiration-là. Pour moi, c'est travailler cette respiration-là, c'est très important. C'est important aussi sur un plan mental et sur un plan psychologique de bien-être, mais ça, bon, c'est un autre sujet. Donc là, vous avez compris un petit peu, en fait, le pourquoi de la routine. Alors maintenant que j'ai dit ça, mais qu'est-ce que je mets dans ma routine? En fait, elle comprend différentes étapes. Alors, je vous mettrai, je pense, ces étapes-là sur le site, je vous ferai une petite vidéo, un petit guide. Allez sur Kimet42, laissez-moi votre mail, je vais mettre un petit formulaire mail. Je vous enverrai ça quand ça sera prêt, parce que là, c'est pas tout à fait prêt. J'essaierai de la détailler pour vous montrer exactement les mouvements, les gestes que je fais, mais vous allez comprendre un petit peu la logique. Première étape, c'est la souplesse et le déverrouillage du corps, dont je vous l'ai dit. Là, je fais des étirements des mollets. Alors, je le fais sur des marches d'escalier. Moi, j'ai un escalier à la maison, mais ça marche aussi sur un petit escabeau, si vous avez ça, ou même un gros dictionnaire. L'idée, c'est de mettre un talon dans le vide, hein. C'est de mettre un pied en appui sur la marche et de mettre le talon. Alors, vous avez un pied en haut sur une marche, un pied sur l'en dessous. Pour ça qu'avec le dictionnaire, c'est plus compliqué, mais on peut trouver un moyen de le faire avec les deux pieds en même temps. Vous voyez, vous mettez les talons dans le vide et en fait, ça va tirer dans les mollets. Vous allez le sentir. Faites environ 3 fois 1 minute par jambe, ou alors vous faites les deux jambes en même temps comme vous voulez, ça dépend ce que vous avez. Ça revient un petit peu au protocole de Stanish, hein, par certains aspects, si vous regardez un petit peu ce protocole là, qui est très bon si vous avez des douleurs de tendons d'Achille. C'est très bon aussi notamment si vous faites si vous passez sur Altra ou sur du Five Fingers, des choses comme ça, si vous courez sans drop, hein, que ça va tellement tirer dans les mollets, dans les tendons partout, que vous devez les étirer, vous devez les travailler et renforcer leur souplesse. Et donc ça, c'est important, ce protocole de Stanish, mais en fait ça revient un petit peu à ça, hein. Voilà, grosso modo, moi je le fais comme ça sur une marche, mais les talons dans le vide, et ça permet vraiment d'étirer, et vous allez vraiment sentir que ça étire fort, hein. C'est assez intéressant. Ensuite, je me mets sur une jambe, je plante le talon devant moi, et je fais tourner la cheville 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et je change de jambe, et puis ensuite, je fais un petit peu, vous voyez, des mouvements d'épaule, je fais tourner les épaules par des petites rotations, ça permet aussi, je m'étire vers le haut en même temps, comme ça, et donc, en même temps, vous voyez, ça ouvre un petit peu la cage thoracique, c'est assez intéressant, et puis ça me chauffe un petit peu pour les exercices qui vont arriver ensuite. En puis, après, je me mets sur une jambe, et je monte le genou en l'air 20 fois. C'est là que ça grince en fait souvent. C'est intéressant parce que ça travaille à la fois, donc ça déverrouille un petit peu, ça travaille aussi la proprioception, vous savez, l'équilibre général. Au début, peut-être vous trouverez que c'est dur, vous serez peut-être obligé de vous tenir à une table, une chaise, à un mur ou quoi que ce soit. Moi, j'arrive à le faire en équilibre. Je fais très clairement, je fais 20 montées sur une jambe, ensuite je change de jambe et je fais 20 montées de genoux, et puis ensuite je m'en mets sur une jambe et je fais des cercles avec l'autre jambe. Vous voyez, des grands cercles assez amples, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et je rechange de jambe, je fais à chaque fois 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, et tout ça en fait travaille sur la proprioception. Sur mon compte Instagram, je vais essayer de vous mettre la photo, j'avais montré aussi quand je faisais la proprioception de l'équilibre sur une jambe, justement comme ça, en me lavant les dents, je me sers du timer de la brosse à dents pour timer, alors je le fais moins en ce moment, mais je le faisais cet été, c'était assez efficace, justement de l'équilibre sur une jambe, ça travaille la proprioception, je vous rappelle, c'est notre équilibre général dans l'espace, c'est comment, par exemple, vous êtes capable de garder l'équilibre, même si vous glissez, etc. C'est assez important, notamment pour le trail, le cross sur les terrains instables, où on a besoin de cet équilibre, ça renforce en fait la réactivité de nos muscles à l'inconfort généré finalement par le fait qu'il y ait du dévers, qu'il y ait plein de choses comme ça, ou quand vous glissez, ça vous rattrape aussi, ça renforce les chevilles, ça renforce plein de muscles, mais en fait ça, la proprioception, c'est le fait de renforcer tout simplement le travail global du corps, hein, quand il y a un certain déséquilibre qui se met. Je termine ces exercices-là par des exercices de marche. Alors, je marche dans mon couloir tranquillement, sur la pointe des pieds, environ 30 mètres, alors moi ça fait quelques allers-retours dans le couloir, donc sur la pointe des pieds seulement, et puis ensuite je fais la même chose sur le talon, je marche que sur les talons, et là en fait c'est pour renforcer le releveur. Alors le releveur, hein, c'est un muscle qui est très important dans la course à pied, vous savez quand j'ai fait ma périostite, un ostéo m'a dit c'est peut-être inflammation, releveur, périostite, en fait les deux sont liés, vous savez, ça fait partie des muscles qui en fait vont soutenir, alors le releveur ça va soutenir le pied, c'est très 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 important, la périostite c'est plutôt un ensemble de tissus en fait qui vont faire le lien entre les muscles, les os, les tendons, etc., qui sont extrêmement importants, hein, qui protègent le corps, qui sont extrêmement importants, donc c'est pour ça que c'est important de vraiment les travailler. Ensuite, je déroule mon tapis à la maison, mon tapis de sport, et dessus, je vais m'installer tranquillement allongé ou assis, ça dépend des jours, et je vais faire de la respiration. Je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors, le principe de la cohérence cardiaque et tous les bénéfices, je le traiterai dans un autre épisode, mais plutôt sur mon podcast perso, sur faitbertrandsoulier.com, vous allez retrouver dans quelques temps là-bas. Le principe, en fait, c'est de respirer amplement au rythme de 6 respirations complètes par minute, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. En fait, normalement, quand on est au repos, j'ai envie de dire, on respire plutôt au rythme de 20 respirations par minute. Là, l'idée, c'est de respirer donc beaucoup plus lentement, d'être conscient de sa respiration, de bien faire de la respiration ventrale, tout simplement. Alors, le rythme n'est pas facile à prendre, hein. Il y a des applications qui peuvent vous aider. Je vous mettrai un lien sur le site, hein. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Breathe In sur iPhone. Mais si vous avez Petit Bambou, si vous faites de la méditation avec Petit Bambou, par exemple, vous avez cette fonction qui est gratuite, hein. Vous cherchez cohérence cardiaque. Alors, ça n'a pas qu'un bénéfice sur la respiration, c'est aussi un bénéfice parce que c'est une question de rythme du cœur, de fréquence cardiaque, etc. Et c'est un bénéfice vraiment notable sur le bien-être. Le bien-être psychologique, en fait, j'essaie d'en faire 3 fois par jour. Le matin, le soir avant de dormir et le plus compliqué à la pause déjeuner. Voilà, dans cette zone-là, dans la journée, en fait. C'est vraiment une histoire de bien-être, mais là, la cohérence cardiaque, il faudrait que j'en parle beaucoup plus, donc je peux pas vraiment parler que de ça. Moi, je m'en sers, moi, vraiment pour travailler ma respiration, et ça m'amène aussi un petit peu dans une phase de méditation, vous voyez, ça me ramène certaines idées, il y a des idées que j'ai eues ce matin, par exemple sur ce podcast, sur d'autres choses, sur l'entraînement, etc., qui me viennent dans ces phases-là, c'est une sorte, si vous n'arrivez pas à méditer, voilà, soyons honnêtes, si vous pensez que la méditation peut être intéressante pour vous, mais vous n'arrivez pas à méditer, vous n'arrivez pas à trouver le rythme, vous n'arrivez pas à savoir sur quoi il faut penser, concentrez-vous juste sur votre respiration. Prenez juste cet exercice-là. Bien inspirer et bien expirer. Concentrez-vous, ayez la conscience de cette respiration-là. Vous allez voir, ça vous amène dans un état de méditation. La méditation, le premier point, c'est d'abord de respirer. Ensuite, tant que mon tapis est sorti, qu'est-ce que je fais? Je fais du yoga. Je vous en ai déjà parlé. Je me suis mis au yoga cet été. Je fais une fois par semaine une séance un peu plus longue, hein, souvent le dimanche, où je fais des étirements plus globaux, je fais certains exercices. Je vais faire progresser tout ça parce que j'ai 2 livres hein, sur le yoga, notamment qui sont orientés sur le yoga pour le sport, yoga pour hommes, et puis un autre pour le yoga plutôt pour le running, et je vais travailler là-dessus. Je m'étais même posé la question de savoir s'il n'allait pas suivre des formations dans le domaine, parce que ça m'intéresse vraiment. Mais en fait, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je fais une séance le dimanche un peu plus longue, notamment le soir avant de dormir. J'aime bien cette séance-là, vous voyez, de préparation au sommeil. J'aimerais aussi travailler des choses comme des équilibres, etc., mais pour l'instant je le fais pas. Je me suis juré que j'arriverais à faire un handstand avant l'été, mais pour l'instant je vais juste m'entraîner là-dessus. Mais le matin, c'est un peu violent pour l'instant, donc ce que je fais, c'est que je finis de déverrouiller mon corps avec des salutations au soleil. Je travaille ma souplesse, les rotations du corps. Ça travaille aussi, ça finit de travailler la respiration, ça étire certaines parties du corps, tout simplement parce qu'il faut se tenir bien droit sur certaines. Ensuite, on va cambrer le dos, on va étirer le dos aussi, vous voyez, on fait travailler dans les deux sens, cambrer, étirer, faire la position du chat, vous voyez, de la vache, etc. Ça va travailler aussi l'étirement de certains muscles, et y compris le psoas. Je termine par une position du guerrier, toujours d'un côté puis de l'autre, et c'est là où j'attaque la partie la plus active. En fait, c'est à ce moment-là où je me sens prêt pour ma journée, c'est assez marrant, vraiment. Position du guerrier, je me dis maintenant t'es prêt pour ta journée, tu vas pouvoir attaquer la suite. Et la suite c'est quoi? Et ben c'est la partie pompe et renforcement. C'est la partie en général qui finit par me faire transpirer un peu. Oui, c'est là où on va se mettre à transpirer. Même si le yoga, je vous dis, si vous faites plusieurs salutations au soleil, j'ai fait un épisode à votre coach web avec avec Tiffen qui est de Yogi Lab qui m'a expliqué ça. En fait, si vous décomposez les mouvements du yoga, vous vous retrouvez sur certains mouvements qui ressemblent à des mouvements que vous pouvez faire en crossfit, en sport, etc. Parce que vous êtes allongé, debout, tête en bas, etc. Vous voyez, vous avez des mouvements qui ressemblent à des pompes, à du gainage, des choses comme ça. Et donc là, vous pouvez commencer déjà, si vous le faites un petit peu de manière active, vous pouvez commencer à transpirer un bon coup. Et puis, le yoga, en fait, il y a du renforcement, de travail musculaire aussi qui se fait. Ça se fait travailler beaucoup plus qu'il paraît. Hein. Je vous dis, c'est intéressant. Donc là, pompe et renforcement, en ce moment, je suis à 75 pompes tous les matins. Voilà, mon objectif, c'est de passer à 100. L'objectif, c'est d'en faire 43 000 sur l'année, hein. C'est un petit peu compliqué, c'est un défi qui m'a été lancé par Nico de Nico Réagi. Ça va être dur hein, pour l'instant, mais si j'arrive à 100 d'ici la fin du mois de février, ça sera déjà pas mal. Donc pour l'instant, je fais plutôt 75, hein, ça fait quelques temps que je suis à 75. C'est un palier, voilà, je me suis fixé sur un palier de 75. J'essaie de faire des séries longues. Ce que j'appelle séries longues, hein, par exemple, ce matin, c'est 50 et puis 25 ensuite. Souvent, c'est 40 plus 20 plus 15. Et la vraie série longue de 40, en fait, elle vous fait travailler. Bah oui, pourquoi des séries longues? Parce que le marathon, c'est un effort long. On travaille plus sur des séries longues. Si vous faites de la muscu, d'ailleurs, faut travailler sur des séries longues. Si vous faites du renforcement, faut travailler sur la série longue. Ça sert à rien de faire 5 pompes ou quoi que ce soit. Enfin, au début, si. Mais petit à petit, vous allez pouvoir passer à des séries qui soient plus longues. Au départ, si vous avez jamais fait de pompe, c'est sûr de faire déjà, commencer par deux, puis ensuite vous en rajoutez une par jour, jusqu'à arriver à 50. Moi, faire les 50 d'affilée, c'est devenu facile maintenant, enfin facile, plus facile. Souvent, je m'arrête à 40, ça dépend de mon échauffement, ça dépend aussi, vous voyez, l'énergie que j'ai le matin. Et l'idée, en fait, je me dis, ça serait de faire 50 plus 25 plus 25, vous voyez, j'arrive à 100. Bon, ce matin, je pense que j'aurais pu le faire. Soyons honnêtes, hein, peut-être j'aurais pu le faire, etc. Comme je suis encore, vous voyez, je me mouche un petit peu régulièrement, hein, cet épisode, vous vous rendez pas compte, je suis obligé de faire des coupes parce que je suis obligé de me moucher, c'est très rare, mais là, vraiment, ce matin, c'est à peu près encore. J'ai besoin de faire évacuer, en fait, toutes ces merdes qu'il y a dans mon corps. Mais c'est comme ça. Donc, ce matin, j'en ai fait 50 plus 25. Ça fait, vous voyez, 75, tranquillement. Ensuite, comme il y a des pauses, hein, je me repose pas, hein, entre ces séries, entre par exemple les 40, 20, 15, après les 40, je fais 20 squats, voilà, donc les squats c'est du polyarticulaire, ça fait travailler tout le corps, fait travailler à la fois les jambes, hein, puisqu'il faut bien appuyer, ça maintient le dos, c'est très intéressant, hein, faites attention bien à une position de bien être vers l'arrière, hein, et pas avoir les genoux qui dépassent devant les pieds. Et puis ensuite, à la pause suivante ou à la fin de ma série de pompes, et ben qu'est-ce que je fais? Je fais 20 fentes par jambe. Donc 20 fentes d'un côté, 20 fentes de l'autre. C'est très bon pour le renforcement. Là aussi, c'est du polyarticulaire. Et aussi, c'est très bon pour la souplesse, hein, le psoas, etc. Donc c'est extrêmement bon de faire des fentes. Squat et fentes. Si vous en faites un petit peu tous les jours, vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et donc, quand j'ai terminé ça, j'ai pas tout à fait terminé. On va faire une petite série de planches. Vous voyez, du gainage statique, hein, vraiment pur. Jusqu'à maintenant, j'étais en dynamique. Là, on va faire du statique. Et statique, ça va être quoi? Ben, ça va être 3 fois 1 minute de planche. Alors, ce que je fais, c'est 1 minute sur les coudes, classique, de planche. Ensuite, je fais 30 secondes sur un côté, puis 30 secondes sur l'autre. 1 minute bras tendu. Et le tout sans me poser au sol, c'est-à-dire sans reposer les jambes au sol. Donc vraiment, c'est je commence sur les coudes. Et puis, une fois que j'ai fini sur les coudes, je passe sur un coude. Et puis, je repasse en position centrale. Je repasse sur l'autre coude. Et puis ensuite, je repasse en position centrale. Je me mets sur les bras tendus. Et ainsi de suite. Donc, ça dure en fait un gainage qui dure un peu plus longtemps. Dans mon application, en fait, j'avais mis des timers dans mon application. Mais si on pouvait compter à peu près, hein, vous voyez, le temps va paraître long. Mais ça fait plutôt autour de, vous voyez, il y a 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, plus les secondes, on va dire 3:30, hein, voilà, presque. Vous voyez, c'est une séance. Si vous faites que le gainage, vous mettez des petites pauses de 10-15 secondes, ça vous fait 4 minutes. À une époque, je faisais 4 minutes de gainage, c'était 3 minutes d'exercice, et en fait, il y avait une minute de pause qui était disséminée, en fait, entre chaque exercice. Vous avez là ma routine de sport, de pré-préparation marathon, mais en fait qui est une routine que j'ai intégrée depuis déjà, j'ai commencé à le faire vraiment bien en septembre, j'avais repris vraiment en septembre, octobre, etc. Et petit à petit en fait je l'ai renforcé. Au départ j'ai commencé par un petit peu de yoga, salutation au soleil, puis j'ai rajouté des éléments, vous voyez, au fur et à mesure. Et là je suis vraiment sur ma pré-préparation marathon, vraiment sur la routine que je vais maintenant maintenir jusque pendant la préparation marathon, et donc jusqu'au marathon. Vraiment, je vais maintenir cette routine-là tous les matins, tous les matins, tous les matins. Le week-end, je la fais plutôt l'après-midi ou après la sieste, hein. C'est vraiment, vous voyez, dans ces zones-là, un petit peu. C'est des questions que souvent, le samedi, dimanche matin, il y a des samedis, dimanche matin, j'aimerais aller courir très tôt, et donc je ferai ça plutôt au retour après l'entraînement, tout simplement, même si je le dis, hein, faire certains exercices après c'est un peu compliqué. Alors ce que je fais dans ces cas-là, avant d'aller courir par exemple le matin, c'est que je fais tous les exercices d'étirement, de réveil musculaire, je les fais avant d'aller courir, ça me prend 5-10 minutes, ensuite je vais courir et ensuite je finis tout ce qui est pompe et renforcement après, vous voyez, tout simplement. C'est une question en fait d'organisation. C'est vrai que déverrouiller le corps à 5h de l'après-midi, ça sert à rien, donc déverrouiller le corps le matin, si vous avez que 5 minutes le matin, vous déverrouillez, vous étirez un petit peu tout ça. Si vous n'avez pas le temps de faire les squats, les pompes, etc., vous pouvez le faire en fin de journée, dans l'après-midi, voilà, c'est, enfin, dans l'après-midi ou week-end, hein, parce que si vous êtes au boulot, ça va être un petit peu compliqué, ça dépend un peu de votre rythme de travail. Moi, je travaille à la maison, donc j'ai cette chance-là de pouvoir le faire, vous voyez, je pourrais le faire aussi juste avant de manger, pendant que le repas de midi chauffe, ben, je pourrais faire mes exercices, donc il y a plein de moments où je peux les passer. J'aime bien faire ma respiration à ce moment-là, j'aime bien faire des, vous voyez, la cohérence cardiaque, je vais le faire le matin, à midi, etc., donc je me suis fixé comme ça, en fait, des routines dans ma journée. Ça, c'est bien sûr à voir en fonction de vous, de votre calendrier, mais vous avez compris un petit peu tous les axes. Maintenant, ma pré-préparation en elle-même n'est pas terminée. puisque là je vous ai donné en fait le côté physique, côté respiration, côté un peu psychologique, hein. Quoique psychologique, je vous ai dit, il faut que je le travaille encore un peu, le mental. Il me reste un élément dans ma pré-préparation, c'est finalement de préparer mon calendrier en lui-même. Le coach a fait mon programme. Voilà, enfin, il a fait un programme pour tous ceux qui vont courir le marathon. On l'adapte en fait en fonction de notre ressenti, mais aussi en fonction de notre allure, hein, tout simplement, parce qu'il y en a qui vont courir le marathon en 2h50 et puis d'autres qui vont le courir comme moi plutôt en 3h30. Donc on va adapter la vitesse, hein, des exercices en fonction de notre capacité, tout simplement. Mais le coach a fait le programme. Maintenant, il faut que je rentre ce programme qui il monte jusqu'à 5 séances, hein, c'est 4 séances plus 5, plus une en option, dont une, il y a du gainage dedans, voilà, hein, donc celle de gainage, moi je la fais tous les jours, donc on va dire que je vais essayer de rentrer sur 4 séances, vraiment 4 séances, 2 séances club, une séance d'endurance mentale et une sortie longue, voilà, on est à peu près là-dedans, sachant que dans les sorties club, ce qu'on va faire, c'est de la VMA courte, VMA longue, du seuil, des côtes, etc., donc ça, c'est mieux le travailler avec des personnes, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne, j'ai des souvenirs, par exemple, dans des séances de côtes où on n'en peut plus, il y a le gars d'à côté qui dit, si celle-là, on la faisait à fond, et puis on se dit, je vais pas lâcher, je vais tenir, etc., donc ça, c'est vraiment très intéressant de faire avec le club, c'est pour ça que j'apprécie courir en club, j'avais dit, hein, dans un des tout premiers épisodes du podcast, mais maintenant, vraiment, comment faire entrer les 4 séances dans mon agenda. Je sais qu'il y a des jours, par exemple, des week-ends où ma femme est en formation, tout simplement, où je ne vais pas pouvoir aller courir le samedi matin ou le dimanche matin. Je ne pourrais pas aller faire une sortie longue le dimanche matin quand elle sera en formation, puisque moi, je serai à la maison pour m'occuper de ma fille. Donc peut-être que je la ferai le lundi matin, mais il y a des lundis matins où je peux être avoir des rendez-vous, faire des cours, hein, des fois, faire des formations, avoir besoin de travailler sur d'autres sujets. Et j'ai un travail aussi, il faut quand même que je travaille à côté. Même si j'aimerais, bien sûr, avoir plus de temps à accorder à la course à pied, au sport et à plein d'autres chose, mais c'est comme ça. Donc il faut que j'arrive à rentrer dans mon agenda, voilà, tout simplement, vous voyez, comment je vais faire rentrer les séances d'entraînement, comment je vais faire rentrer dans mon calendrier. Et donc ce que je vais faire en fait, tout simplement, c'est que je vais prendre le programme du coach, je vais programmer mes séances dans Polar Flow en fait, tout simplement, parce que moi j'ai du monde polar, et donc je vais programmer toutes les séances, le détail de toutes les séances sur le calendrier, et puis s'il y a besoin, je les déplacerai, mais ce qui fait que ça va programmer en même temps ma montre sur, alors je vais le faire mois par mois, je vais pas faire toutes les 10 semaines de préparation comme ça, je vais faire d'abord le premier mois, je vais rentrer les séances, comme ça tout sera prêt, le moment où je suis prêt à courir, j'ai pas besoin de penser, me mémoriser ou quoi que ce soit, je démarre, hop, je prends la montre, je démarre, il me dit vous avez tel truc à faire, il va me guider, accélérer, freiner, ralentir, courir pas trop vite, etc., il va le faire tout seul, donc ça je vais le faire, et puis dans mon bullet journal, puisque j'ai un bullet journal, je vais rentrer en fait un tracker de suivi des séances. Alors l'an dernier je l'avais fait avec des petits arbres, à chaque fois que j'allais faire une séance de course, je plantais un petit arbre, et donc à la fin j'avais une belle forêt qui montrait tous les progrès, et puis ça faisait un petit chemin, le chemin en fait il arrivait jusqu'à la tour Eiffel. Bon, Albi, il y a une belle cathédrale, donc il n'y a pas de tour Eiffel, donc je vais voir comment je vais faire mon bullet journal et comment je vais remplir, est-ce que je reproduis le schéma des arbres, etc. Mais en tout cas, je vais faire un tracker, tout simplement pour comptabiliser à la fois le progrès, vous voyez, au fur et à mesure que la page se remplit avec des petits arbres, et ben on voit qu'on avance dans la préparation, le chemin avance, etc. C'est assez motivant, c'est assez intéressant, j'ai bien aimé ce concept-là. Et à la fois aussi de me rappeler un petit peu le ressenti, vous voyez, je vais mettre des petits smileys, des choses comme ça, je pourrais le mettre dans Strava, je pourrais le mettre dans Polar, ou je pourrais mettre dans plein d'endroits. J'aime bien le mettre dans le bullet journal parce que dedans, je traque mes habitudes, je traque plein de choses, vous voyez. Et j'ai aussi, il y a un truc que je dois rajouter aussi, c'est traquer mon hydratation. Pendant longtemps, je surveillais, vraiment, je mesurais combien je buvais d'eau, etc., parce que je buvais pas assez. Je pense que j'ai corrigé ça, mais vous savez, il peut toujours y avoir un dérapage, il peut toujours y avoir un décalage, on a l'impression qu'on boit bien, etc. Puis des fois, je me rends compte, par exemple, que ma bouteille ne se vide pas assez vite. Ou alors, à un moment, je me rendais compte que je buvais trop de thé, etc. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment sur l'hydratation, je vais faire un petit effort là dans la semaine qui vient, et puis ensuite bien sûr pendant la prépa, mais vraiment me remettre dans le rythme de ça. Mais vraiment, ça c'est un petit peu annexe, je vais noter un petit peu de voir combien je bois tous les jours, mais vraiment c'est vraiment de, vous voyez, penser maintenant comment je vais commencer, planifier mon calendrier, comment je vais faire rentrer tout ça. Mais c'est un sujet bien sûr qui sera un peu plus long à aborder, donc j'en parlerai dans un prochain épisode, de vous donner mes tactiques de comment je vais arriver à faire rentrer tout ça dans mon agenda, dans mon planning, entre m'occuper du travail, m'occuper de ma femme, de ma fille, m'occuper du course, m'occuper de mes contenus, comment faire rentrer tout ça dans la journée, dans la semaine. Ça va être un sujet, je pense, qui peut vraiment rentrer dans un épisode à part entière, et puis qui peut se discuter, parce parce que je voudrais avoir des invités dans le podcast. On devait enregistrer un épisode lundi, j'avais prévu un épisode avec un invité. J'étais obligé de le remettre pour des rendez-vous. Et puis la semaine dernière, c'était le même invité, mais ça a été remis à cause de la gastro. Vous voyez, alors lui, c'est pas de bol. Je suis désolé, Thibaut. Si tu écoutes cet épisode, je suis vraiment désolé, mais on va arriver à le faire. Parce que ça me tient à cœur de voir justement vous aussi comment vous vous organisez. Vous voyez, c'est pourquoi ça m'intéresse, c'est comment vous organisez, comment vous planifiez vos années de course, comment vous fixez vos objectifs, pourquoi vous courez ça, comment vous êtes venu à la course à pied. Vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai lancé des invitations pour vous inviter à venir parler de tout ça, qu'on confronte un petit peu comment on fait. Il y a des fois je me dis tiens, j'aimerais bien aller voir certains sportifs plus haut niveau, voir comment eux ils font. Mais en fait, moi, ce qui m'inspire le plus, ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est de savoir comment nous faisons, nous, hein, au quotidien, nous qui rentrons ça dans une passion, comment on fait pour planifier tout ça. Vous voyez, par exemple, quand je vois que certains se lancent dans un défi Ironman, moi j'ai dit, un défi Ironman, mais je me vois pas faire ça, tout simplement c'est parce que je me dis, mais comment tu peux rentrer 25 heures d'entraînement dans une semaine, ou 20 heures d'entraînement dans une semaine, pour travailler à la fois le vélo, la course et la natation, comment tu peux rentrer tout ça dans une semaine, alors que là, je me dis, j'ai du mal à voir comment je vais rentrer 7 à 8 heures d'entraînement de running. Bon, pour l'instant, ça vient aussi que ma fille est jeune, etc. Et puis peut-être aussi, ça vient que moi, je dois travailler mon organisation. Donc ça m'intéresse aussi de voir comment vous vous organisez. Vous pouvez m'envoyer des messages, mais si ça a certains, je lancerai des invitations. Et si certains ont envie d'en parler, dites-le moi, parce que ça m'intéresse vraiment. Et donc, je ferai des épisodes un petit peu spécialement là-dessus, comment on planifie tout ça, quelles sont les aventures qu'on a pu vivre en course, les rencontres qu'on a pu faire, etc. Enfin, vous voyez, c'est un peu les évolutions du podcast que je voudrais faire. En attendant qu'on parle de tout ça, bah, je vous souhaite à tous de bien courir, hein, voilà, de faire des bons entraînements, de bien soigner votre énergie, bien soigner votre forme, bien faire attention à bah, tout ce qui compose finalement votre entraînement visible et invisible, j'ai envie de dire. Et entre des séances, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser une note et un commentaire. Vous savez que ça aide le podcast à se faire connaître, ça aide au fait qu'il y ait plus de gens qui écoutent, ça aide aussi des gens à finalement peut-être à courir pour certains, parce que c'est des messages que j'ai reçus dans ce sens-là. Il n'y a pas que des gens qui préparent des marathons, il y a des gens qui se mettent à la course à pied. J'avais reçu un nombre de messages vraiment très intéressants après mon marathon de gens qui disaient moi aussi j'ai envie de courir, mais comment tu fais, comment tu t'es mis à la course, comment tu fais ça, etc. Et donc vraiment, si vous êtes dans ce cas là n'hésitez pas, hein, j'essaie de répondre. Alors il y en a certains, je réponds en vidéo, des fois je réponds en texte. On a discuté aussi de périostite, de basket, de chaussures, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez le faire notamment sur Strava, pas trop, hein, vous pouvez me dire sur Strava, je mets le lien dans les notes d'épisode, sur Instagram, hein, @Bertrand Soulier, sur Twitter @Bertrand Soulier, par mail aussi sur Kilomètre 42, vous avez un format de contact. Je vous enverrai des mails, hein, je vous rappelle, je vais faire un petit formulaire pour vous envoyer ces programmes, ces petits bonus. Je vais faire des petits bonus désormais aussi sur le podcast. J'en fais sur les autres podcasts, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas ici. Et si le podcast peut aider un ami, n'hésitez pas aussi à lui faire découvrir, lui montrer comment ça marche. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment marche le podcast, et il y a plein de gens qui aimeraient écouter des podcasts, et surtout des coureurs, vous voyez, des gens qui se mettent à courir, qui font des sorties longues, des sorties courtes, etc. Un épisode là, il fait 37 minutes, ça fait une bonne séance. J'ai des épisodes qui des fois étaient plus longs, vous voyez, avec des entretiens, etc., qui pourraient faire plus longs. Il y a des épisodes qui sont taillés pour des sorties longues, et des épisodes qui sont taillés pour des sorties plus classiques. Celui-ci sera taillé sur une sortie de 37 minutes, voilà, c'est un petit footing tranquillement. Bah, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par les conseils, qui a besoin de conseils, ou qui vraiment vous pensez que ça peut l'intéresser, bah, n'hésitez pas à lui expliquer comment marche le podcast. N'hésitez pas à aller sur son téléphone avec lui, à lui montrer comment s'abonner, comment ça fonctionne, hein. Et vous pouvez aussi d'ailleurs montrer que ça marche aussi sur Spotify, bientôt sur Deezer, il faut que j'inscrive le podcast, mais sur Spotify en tout cas, vous le retrouverez, je vous mets tout le lien en note de l'épisode. Donc n'hésitez pas vraiment, voilà, à expliquer aussi autour de vous comment ça fonctionne le podcast, parce que vous savez que le podcast c'est génial, que c'est un très bon allié quand on va courir, etc. Moi j'adore écouter des podcasts quand je vais courir, et pas que des podcasts running, mais certains podcasts running. Donc j'adore écouter ça, j'adore écouter les aventures des autres podcasteurs, j'adore écouter plein de choses quand je vais courir. J'écoute pas que de la musique, en plus la musique a une tendance des fois à me faire accélérer, alors quand je fais de l'endurance fondamentale, je préfère écouter des podcasteurs raconter leurs aventures, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc n'hésitez pas vous aussi, hein, à aider à faire connaître le monde du podcast à plein de monde autour de vous, et voilà, c'est une manière de le faire, hein. Il y a le partage sur les réseaux sociaux, il y a le partage sur Instagram, il y a le partage sur plein de choses, mais c'est vrai aussi qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'ils ont l'application sur leur téléphone, et donc qui peuvent partir courir en écoutant un podcast. Donc si vous allez dans votre entourage, n'hésitez pas à le faire. Là c'était ma petite minute de publicité pour le podcast, et je pense que c'est très important qu'on arrive à développer tous ensemble le podcast, parce que je parle pas que de mon podcast, je parle vraiment de l'univers du podcast, parce que c'est vrai que c'est aussi une manière, vous voyez, quand on dit de faire du sport, se détacher des écrans, de bouger, etc., et ben c'est un moyen pour ceux qui disent « Ah oui, mais tiens, je voudrais bien faire telle ou telle chose, etc. » Eh ben, le podcast, mais c'est comme le livre audio, j'ai envie de dire. Moi, j'écoutais à une époque, j'ai écouté des livres audio aussi en courant. Et là, je vais le refaire, hein, quand on court 7 à 8 heures, je vais écouter du podcast et du livre audio. Eh ben, s'il y a certains livres audio, vous voyez, en une semaine, je suis capable de le lire en courant. Ben, c'est vachement intéressant. Ben, le podcast aussi, c'est super intéressant. Et je pense que si vous êtes dans votre entourage, les gens vous dites « Il fait pas de sport, il est trop rêvé sur son écran. » Ça peut être un moyen, vous voyez, ça peut être un moyen, mais ça c'est un autre sujet dont on parlera, je pense, dans d'autres épisodes. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bons entraînements, courez bien, soignez votre alimentation, soignez votre sommeil, soignez votre récupération. Si vous avez des questions sur ma routine, si vous pensez qu'il y a des trucs à ajouter ou à modifier, si vous voyez des choses que j'ai mal expliquées, et si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas, hein, je vous l'ai dit, je vais faire des petits bonus à ça, je vais faire des petites vidéos, des petites explications complémentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.